Bonsoir à toutes et à tous, c'est Simon, il est 18h sur Radio Campus, bienvenue à bord du Pédalo.
Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le Pédalo. La quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Et au programme de cette émission, on parle mal logement et précarité étudiante. Le syndicat Union étudiante lance une grande enquête sur ces thématiques. Leur objectif, mieux connaître la situation pour mieux la combattre. On en parle avec Nathan Flacher, trésorier de la section angevine de l'Union étudiante. Voilà, vous savez tout de ce pédalo du mercredi 1er octobre. Alors ajustez votre gilet de sauvetage parce que le pédalo part à l'abordage.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
C'est malheureusement l'une des principales problématiques qui touche le monde étudiant, la précarité et en particulier en matière de logement. D'ailleurs, le récent rapport de la FAGE sur le coût de la vie étudiante montre que ce sont les dépenses liées au logement qui arrivent en tête. Alors pour savoir concrètement quelles sont les problématiques auxquelles les étudiants et étudiantes sont confrontés, l'Union étudiante lance une grande enquête nationale. On en parle aujourd'hui avec Nathan Flacher. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors tu es trésorier de la section angevine de l'Union étudiante. Alors déjà, ces enquêtes auprès des étudiants et des étudiantes, l'Union en produit chaque année sur des thématiques différentes. Pourquoi choisir le logement en particulier ?
Alors pourquoi le logement ? Bon, c'est une des grandes thématiques liées à la vie étudiante, que ce soit sur Angers ou partout en France finalement, mais comparé justement à d'autres enquêtes qui sont produites par d'autres organisations, que ce soit justement la FAGE, l'UNEF ou bien d'autres. Nous, à l'Union étudiante, on a voulu se focaliser plus sur justement ces thématiques-là. Alors, pourquoi le logement ? Parce que, voilà, il en faut choisir une parmi tant d'autres, mais ça peut être justement le logement et la précarité comme ça l'est aujourd'hui, mais ça peut être finalement aussi lié à la restauration, que ce soit la précarité justement alimentaire, que ce soit via le CROUS ou dans la vie de tous les jours finalement.
En tout cas, le logement n'est qu'un symbole finalement de tout ce qui existe autour de la précarité étudiante.
Oui, puisque c'est une de nos vies finalement, la question liée du logement, mais c'est que ce soit l'alimentation, que ce soit les études aussi en soi, que ce soit les animations, nos loisirs aussi sont toutes parts de notre vie. On ne peut pas penser qu'une étudiante, un étudiant ou n'importe qui d'autre finalement puisse dormir à la rue. Donc c'est notre thématique cette année.
Alors à qui est-ce qu'elle s'adresse cette enquête et quelle forme est-ce qu'elle prend ? On imagine que c'est plus pour les étudiants, mais de n'importe quel secteur, de n'importe quelle section ?
Oui, tout à fait. C'est adressé à l'ensemble de la communauté étudiante. Donc ça peut être des étudiantes et étudiants d'université, publique ou privée. Ça peut être aussi des étudiantes en classe préparatoire, en BTS, en DUT, ou dans d'autres écoles, ingénieurs ou privées. Donc là, par exemple, sur Angers, je pensais à l'ISTOM, à l'ESCA, l'Institut Agro, l'ESA, ou n'importe quel autre établissement sur Angers.
Et donc, c'est sous quelle forme ? Il y a un questionnaire à remplir, des sondages ?
C'est ça. Nous avons fait un post Instagram, justement, et ce lien aussi vous renvoie vers le formulaire qui est sous forme d'un Google Doc, tout simplement. Ça prend que 5 minutes, en vérité. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'est si vous voulez raconter votre témoignage, plus vous en direz justement, plus on pourra axer la lutte contre ces points de détail, parce que ces points de détail aussi peuvent affecter grandement la vie d'un étudiant ou d'une étudiante.
Et alors donc, une fois que toutes les données vont être récoltées, est-ce qu'il va y avoir un rapport qui va être construit, ou en tout cas un document qui va recenser et déblayer un peu ce qui a été dit ?
C'est ça, on fait un des rapports qui s'appelle, on va dire, le grand dossier de l'année justement. Là, il ne me semble pas que ce soit pour un grand dossier de l'année, mais ça peut très bien arriver aussi, puisqu'on en a déjà fait une il y a 3 ans, sur le mal logement de manière générale, mais exclusivement le mal logement, pas le mal logement et la précarité qui en découle. Mais c'est aussi, dans toute l'étape finalement de la lutte, ça peut être une lutte à échelle locale sur défendre auprès des, par exemple, des bailleurs sociaux, le problème justement de ces logements qui soient insalubres ou qui n'en a pas assez justement. Ou alors, ça peut aller jusque dans des grandes administrations publiques. Je veux dire, à échelle nationale, ça peut être, par exemple, l'Assemblée nationale pour aboutir à une proposition de loi, justement, pour investir massivement dans le logement ou leur réhabilitation.
Et le but final, c'est de faire du lobbying, je ne le dis pas de manière péjorative, mais auprès de parlementaires, pour vraiment mettre au centre des débats la question du mal logement.
Oui, c'est un moyen parmi tant d'autres qui puisse exister. Oui.
Alors, dans son enquête, vos collègues de la FAGE, dont je parlais tout à l'heure, parlent de dépenses de plus de 500 euros dans le logement juste pour la rentrée. Ça représente quoi sur un budget étudiant? Un budget étudiant de rentrée?
Un budget étudiant, ça dépend de la particularité de l'étudiant, c'est qu'il existe une diversité folle de personnes étudiantes, que ce soit vis-à-vis de leur origine géographique. Quand je dis géographique, ça peut être étudiant extra-européen ou pas. Ça peut être d'origine sociale, mais aussi d'origine économique différente. Dans le sens où un étudiant boursier échelon 7, ça va représenter quasiment 80 à 90% de leurs dépenses vis-à-vis de leur bourse, parce qu'à échelon 7, c'est très rarement des cas où on peut être étudié, on peut être aidé autre que par la bourse, justement, parce que soit pas les parents qui puissent nous aider, ça peut être personne d'autre qui peut nous aider, finalement, que ce soit via les appels parce qu'on n'a pas accès, via les bourses même qu'on ne peut pas avoir si on est un étudiant extra-européen, parce qu'il faut se justifier de 2 ans de présence en France pour ça. Donc 500 euros, c'est une moyenne, ça peut être...
Mais toujours est-il que ça représente quand même la grosse proportion de ce budget.
L'immense majorité, oui. Parfois, c'est la moitié, justement, du budget, même avec les appels.
Alors, le coût de la vie étudiante, on le sait, il est en constante augmentation. À quel point est-ce que les loyers en sont responsables de cette augmentation? En d'autres termes, est-ce qu'il y a une explosion ces dernières années des prix des loyers?
Ah oui, et Angers est loin d'être la plus sympathique envers les étudiantes et étudiants, puisque c'est sur 2 ou 3 années consécutives, une des villes dans le top 3 ou 5 qui a le plus augmenté en loyer, justement. Ça peut aller jusqu'à 6-7%, enfin, très facilement. Même, notamment, on va dire, des appartements, des locations privées, surtout ça, qui est pris en compte, parce que c'est ça qui coûte le plus cher. Comme je disais, c'est une moyenne, mais ça comprend les CROUS, ça comprend les colocations. Donc, le prix est partagé en deux, justement. Mais c'est là où ça a le plus augmenté. Et au CROUS aussi, ça a augmenté.
Oui, c'est une augmentation globale. Hein. C'est pas juste le privé qui s'est mis à monter ses prix, ça suit une tendance globale.
Ah oui, oui, et je veux dire particulièrement au CROUS, là où le CROUS justement est censé être un établissement public qui est censé justement offrir, enfin avoir une offre à tarif social justement pour les étudiants. On pense par exemple au repas à 1 euro, au restaurant universitaire, mais c'est aussi le cas des loyers qui sont très, pour un 22 mètres carrés par exemple, on peut arriver à 300-350 euros justement de loyer. Et cette augmentation-là, on l'a votée en conseil d'administration du CROUS de Nantes. On l'a augmentée pour la deuxième année consécutive à 3,5 à 5% supplémentaire selon les résidences.
Ouais. Et au-delà du prix des loyers, il y a aussi ceux de l'énergie qui vont avec. À quoi est-ce que les étudiants peuvent régulièrement être amenés à renoncer pour qu'on s'en rende un peu compte, en fait?
Le renoncement, justement, c'est ça qu'on veut dénoncer, c'est le renoncement à ce qui est vital pour l'étudiant. Donc se loger, se nourrir, se chauffer, se soigner aussi, c'est une base justement pour simplement vivre. Sauf que là, on n'est plus dans la vie, on est dans la survie, puisqu'on est obligé de sauter un repas sur deux, c'est le cas d'un étudiant sur deux, justement. Ça peut être justement un renoncement aux soins, donc malgré la sécurité sociale, voire même la complémentaire santé solidaire, qui est parfois gratuite, ce n'est pas accessible parce que tout n'est pas remboursable, parce que selon ce qui est voté justement à échelle nationale, il y a une augmentation des frais, que ce soit dans la santé, dans l'énergie, dans la restauration, les prix explosent, que ce soit dans le supermarché ou autre part, en plus des loyers.
Alors pour celles et ceux qui ne seraient pas étudiants et qui puissent s'imaginer le parcours que c'est quand on recherche un logement, déjà en dehors de la problématique du prix, il y a aussi la question simplement de trouver ce logement, parce que certaines villes donc sont en tension à ce niveau, et on en parlait un peu, mais Angers en fait partie. Dans toute la France, ce sont 87 000 étudiants et étudiantes qui ont entamé leur année universitaire sans logement. C'est un chiffre qui date de 2023, mais c'est quand même très récent. Quel impact ça a sur ces études de ne pas avoir d'arriver sans logement, et même quand on a un, de ne pas avoir un logement assez confortable?
Alors ce chiffre que tu dénonces, justement, les 87 000, c'est à peu près la même proportion qu'il y a encore cette année à échelle nationale. Sur le cas sur Angers, comme tu disais, la tension, elle est immense, puisque bien qu'il y ait l'arrivée de 600 logements universitaires sur le campus de Belbeil, c'est loin d'être suffisant. Très clairement, puisque si on compte l'ensemble des étudiantes et étudiants sur Angers, si on compte l'université et l'ensemble des écoles que j'ai citées précédemment, par exemple, on arrive à des chiffres astronomiques par rapport à l'offre possible via les bailleurs ou même le CROUS.
Et donc sur la réussite étudiante en elle-même, qu'est-ce que ça crée, enfin qu'est-ce que ça engendre?
Ce que j'engendre, c'est énormément de stress, notamment puisque ce stress de devoir mal dormir, mal se loger, c'est commencer son année sur pas sur un même pied d'égalité par rapport à d'autres qui ont déjà leur logement, donc ça entrave déjà le début et de bien s'installer, de bien commencer un rythme de travail à l'université ou à l'école. Et en plus du stress, justement, il n'y a pas assez d'accompagnement, justement, selon moi, pour trouver un logement dans les plus brefs délais ou un accompagnement psychologique ou social. Il existe des solutions à échelle du CROUS, notamment, du SSU, par exemple, pour l'Université d'Angers, pour l'aide psychologique, mais des aides pansement, comme je les appelle, c'est par exemple devoir loger au camping du lac de Maine. Mmh. Sauf que, quand bien même, il y a eu des efforts, justement, pour aligner les tarifs, par exemple, de la nuitée ou d'une semaine, par exemple, du camping et des logements sur Angers, ça reste des conditions qui ne sont selon moi pas vivables, pas dignes, surtout pour des étudiantes et étudiants.
Et parfois même quand un logement est trouvé, les personnes vont être obligées d'aller vers des appartements ou des maisons qui sont trop loin ou trop petits. On imagine que là aussi, il y a un impact, que ce soit par rapport au temps de trajet engendré ou juste par rapport au fait de ne pas être assez confortable pour pouvoir vivre en tant qu'étudiant.
C'est ça, c'est que sur Angers, on a quand même Irigo, mais ça ne va pas plus loin, je veux dire. Sinon, il faudrait avoir un abonnement à l'IOP de la région pour pouvoir se déplacer. La problématique du transport, c'est encore une autre chose qu'on défend à l'Union étudiante Angers.
Mais en tout cas, la question du logement peut être liée à celle du transport si l'étudiant ou l'étudiante est obligé de loger loin.
Ah oui, bon, on nous a très... beaucoup de fois, on nous a raconté que justement, le fait d'avoir une ligne supplémentaire entre le campus de Belle-Bay et le centre-ville, ça permettait de se déplacer par exemple pour aller aux rues le soir ou simplement pour trouver des logements. Mais c'est encore beaucoup d'étudiantes et étudiants qui vont devoir bouger d'un campus à un autre alors qu'ils pouvaient loger juste à côté. J'ai eu le cas d'une étudiante justement qui nous a contacté, qui a été obligée dans un premier temps d'accepter un logement sur Verrières-en-Anjou. Ce qui c'est pas la porte d'à côté, hein, même si on a une voiture, ça fait quand même 20 minutes, voire bien plus, pour aller jusqu'à Belle-Bay. Aller, puis 20 minutes retour, c'est du temps qui est manqué justement pour pouvoir travailler ses études ou pour simplement vivre chez soi correctement, puisque devoir se lever, si on habite encore plus loin, c'est devoir finalement couper une partie sur son sommeil. Et le sommeil, c'est pareil, l'une des choses les plus importantes, et c'est ce sur quoi on rogne déjà pour travailler, que ce soit travailler dans une entreprise ou quelque chose pour avoir un complément d'argent ou pour pouvoir étudier autant de fois qu'il faut.
Dans vos estimations à l'Union étudiante, vous avez, y a ce chiffre qui est sorti toujours en 2023, que 1,5 million d'étudiants et étudiantes sont mal logés, ça fait quand même 1 sur 2. Qu'est-ce qu'on entend concrètement quand on parle de mal logement? Parce que c'est vrai qu'on a évoqué tout à l'heure des apparts petits, des apparts qui ne seraient pas forcément chauffés, mais ça peut être très large comme définition. Ça veut dire quoi quand on parle de mal logement?
Mal logement, du coup, si on l'oppose au bien logement, c'est toutes les conditions qui ne sont pas remplies pour avoir justement un logement digne de soi, c'est-à-dire qui n'est pas chauffé à temps quand il y a des baisses de température à l'arrivée de l'hiver notamment, mais qui peut s'appliquer déjà dès l'automne. Ça peut être justement le tarif, je disais l'espace et l'accès par exemple à des cabinets, douches, etc. Parce que dans certains logements, c'est partagé. Ça peut être lié à la vétusteté ou la vieillesse justement du bâtiment qui laisse passer le froid ou le chaud en hiver en été. Ça peut être aussi des dégradations, le fait qu'il y ait des fissures, que ce soit pas... qu'il y ait besoin de beaucoup de travaux physiques liés à la plomberie, à l'électricité ou au bâtiment en soi. Ça peut être par exemple des invasions aussi de parasites, que ce soit des punaises de lit comme ça l'a été post-Covid, qu'on a beaucoup entendu à parler à Paris, mais en fait ça existait partout. On a aussi des cas sur Angers. Ou d'autres parasites, que ce soit des...
Les cafards, les rats qu'on peut croiser régulièrement.
Ça. Moins les rats, c'est surtout les punaises de lit, les parasites comme ça, mais c'est pas impossible.
On continue de parler de la précarité étudiante face au logement, mais avant on va faire une pause musicale et écouter Raz Holscher. C'est un auteur, compositeur et interprète anglais, connu notamment pour ses compositions pour les courts et longs métrages. Le titre s'appelle Over the Hill et c'est sorti en mai dernier dans l'album Craters of the Lost Souls. A tout de suite dans le pédalo. Thank you. C'était Over the Hill de Raz Holscher. Vous êtes toujours sur Radio Campus à l'écoute du Pédalo. Et aujourd'hui, nous sommes avec Nathan Flacher pour parler de précarité étudiante et d'accès au logement. Donc on parlait tout à l'heure notamment on faisait un focus sur le mal logement. Les résidences crous sont aussi parfois pointées du doigt, présence de nuisibles, insalubrité, notamment dans les parties communes. Le crous reste quand même un établissement qui relève d'une mission de service public. Comment est-ce que collectivement on peut faire en sorte que les étudiants et étudiantes qui y vivent n'aient pas à subir ce genre de problème?
La première chose pour moi, c'est de véritablement prendre conscience de la réalité, c'est de la société, comment elle fonctionne aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, une bonne partie de cette société-là, pour ne pas aller plus loin, on va dire, dans la réflexion politique derrière, mais c'est qu'elle est mal gérée, elle prend mal en compte, elle prend moins bien en compte la parole étudiante parce qu'elle est parfois muselée quand on essaye de dire des choses, quand on essaye de faire des actions. Elle est très souvent réprimée. Quand ça a été, par exemple, de manifester, parfois elle est même simplement ignorée par les présidences d'université, ou quand cela est dénoncé dans les instances telles que les conseils, notamment le conseil d'administration du CROUS, elle est pas ignorée, mais elle est débattue. Mais au final, c'est derrière la parole étudiante qui est contrée par le reste des administrateurs aussi.
Et le rôle d'un syndicat, justement, est-ce que c'est aussi ça, de faire valoir les droits et de donner aussi des leviers d'action aux personnes concernées?
C'est ça, c'est que notre syndicat, techniquement, on est considéré comme une asso quelconque de la 1901, mais dans nos objectifs, on est là pour défendre les droits des étudiants, justement, que ce soit dans leur filière universitaire, par exemple, à l'université ou leur école, justement, mais aussi défendre la dignité et l'intégrité physique et morale des étudiants et étudiants dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que même s'il se passe quelque chose, à titre d'exemple, que ce soit des cas de violences sexistes et sexuelles, même si cela ne se fait pas, si vous êtes témoin ou victime, et que cela ne se produit pas à l'université, dans votre école, ou dans quelque part au CROUS, mais dans un établissement quelconque comme un bar, et bah, il existe des syndicats justement pour défendre et de rattacher justement les problèmes, les besoins à des associations comme la nôtre ou à d'autres, si jamais ils peuvent répondre encore mieux aux besoins.
Donc ça veut dire que dans le cadre, par exemple, d'une personne qui aurait des problématiques de logement liées par contre à des bailleurs privés ou des particuliers, là aussi, un syndicat comme l'Union étudiante peut venir en aide.
C'est ça, c'est que très souvent, justement, que ce soit par exemple lié au travail, si vous allez dans une boîte quelconque ou vous avez un contrat de logement, et ce contrat doit spécifier certaines choses, doit mentionner... Par exemple, en cas de colocation, qu'est-ce qui est possible ou pas? Si vous logez chez l'habitant aussi, ça doit, par exemple, mentionner quelles sont les parties auxquelles vous avez accès ou pas. Et si jamais le bailleur ne considère qu'il y a une rupture ou de ce contrat-là qui n'a pas été respecté, et que l'étudiante ou l'étudiant, au contraire, juste ne comprend pas cette situation-là et se retrouve justement démuni de toute action parce que... considère ça comme injuste, alors nous sommes là pour défendre, d'aller au plus près de la situation auprès de l'étudiant, du bailleur, de voir ce contrat-là pour trouver les points qui sèment la zizanie et qui soient réglés pour aboutir à ce que l'étudiant et l'étudiant puissent soit être relogés, soit puissent rester dans le logement actuel.
Et d'ailleurs, à quel point est-ce que les problématiques administratives, que ce soit dans la recherche de logement ou même une fois qu'on est dans le logement, peuvent jouer un rôle dans les difficultés que trouvent les étudiants et étudiantes dans le fait de se loger?
Les problématiques, il y en a tout plein, en fait. Et surtout quand on est, par exemple, étudiant extra-européen, il y a la barrière de la langue, il y a la barrière justement administrative, puisqu'on a le cliché que la France est un grand pays avec beaucoup d'administrations, etc. Mais quand bien même c'est véridique, hein, je vais le dire honnêtement, nous sommes là pour les accompagner tout au long de ces différences-là, que ce soit l'accès aux appels par la CAF, que ce soit l'accès au logement par le CROUS ou par les bailleurs sociaux, par d'autres. Si jamais il y a des annonces, on est là pour les relayer, que ce soit un canal WhatsApp qu'on a créé très récemment. Et on est là pour tout point final.
Mais ça veut dire que trop de personnes aujourd'hui, de par des difficultés de compréhension de tout ce qui va être administratif, vont par exemple soit faire confiance à des bailleurs peu scrupuleux ou alors juste passer à côté de certaines aides dont ils pourraient avoir accès.
C'est ça, c'est que les marchands de tapis, ça existe pour tout le monde finalement. Donc les étudiants, ce ne sont pas simplement des étudiants, ce sont des personnes comme telles qui ont besoin d'un logement, comme une personne au RSA, une personne de 50 ans, retraitée même. Donc les marchands de tapis, ça existe pour vendre au plus vite, le vendre. louer leur bien finalement à des étudiantes pour se retrouver dans des conditions qui ne sont pas dignes. Pareil pour la question administrative, il y a des aides, il existe des aides, comme je disais, les appels, il y a des aides spécifiques pour le CROUS, mais c'est pareil, c'est pas la porte d'à côté pour pouvoir faire les démarches entre contacter une première fois, faire un dossier d'aide, savoir quels sont les conseils qu'on peut recevoir et nous, de notre côté, donner pour pouvoir avoir un dossier qui soit le plus bienveillant possible, le plus adéquat vis-à-vis de la situation qui permette vraiment d'aider l'étudiante ou étudiant dans son besoin financier finalement l'ensemble des démarches administratives pour la location, que ce soit dans un CROUS ou auprès d'un bailleur, dans tous ces détails-là que j'ai expliqué tout à l'heure.
Et d'ailleurs, en parlant des étudiants étrangers, est-ce que, on a compris que c'était forcément plus dur pour eux de par cette barrière de langue, mais est-ce qu'ils peuvent aussi être confrontés à des discriminations, que ce soit par exemple face à des propriétaires qui vont refuser des appartements ou bien des bailleurs qui vont être en conflit avec ces derniers?
C'est tout à fait possible, oui.
Mais est-ce que par exemple c'est un facteur, on va dire, prépondérant?
Prépondérant? Je n'ai pas les chiffres là comme ça, mais c'est arrivé. Oui, on a déjà eu un étudiant, qui n'a pas pu se loger parce que il y avait cette barrière de la langue et qui s'est vu déjà dans un premier temps refuser la visa, donc qu'on a pu c'est... J'ai plus le terme, mais d'avoir un garant, voilà, excusez-moi, d'avoir quelqu'un à qui on a pu refuser la garantie visa parce que justement ils ont le droit. Les propriétaires ou locataires peuvent refuser la garantie visale ou n'importe quelle autre garantie, mais sans justement ces garanties-là, justement les étudiants extra-européens n'ont pas d'autre choix puisque ils n'ont pas accès à la bourse, ils n'ont pas autant d'aide qu'un étudiant français ou européen, et donc va devoir chercher autre part. Donc
c'est... profonde inégalité en tous les cas.
Ah oui, le racisme, même là-dedans, il existe aussi.
Et il y a un autre sujet lié aux discriminations dans l'accès au logement, c'est aussi la question du handicap. Aujourd'hui, comment les logements peuvent se mettre aux normes pour les personnes à mobilité réduite pour qu'elles puissent se loger convenablement, et est-ce que d'ailleurs il y a une vraie volonté de mettre ces logements aux normes?
Alors pour être honnête, de notre côté, oui, évidemment, sauf que ça s'est passé, il me semble, il y a 2 ans. C'est une loi qui est passée parce que dans cette loi, ça disait qu'au départ, parce que c'était dans le code, je crois, le code de l'urbanisme ou quelque chose du genre, où 100% des appartements, des maisons qui sont construites devaient être adaptés aux personnes handies. Je dis handies parce que ça peut être physique, notamment. Mais depuis, cette règle a été abrogée et... 100% ce n'est plus l'objectif, c'est une véritable discrimination dans la construction des nouveaux logements. C'est encore pire justement pour des logements qui sont déjà actuels et qui ne sont pas aux normes. Je parle par exemple de la résidence CROUS d'Auversière, il n'y a pas d'ascenseur, c'est vraiment 100% escalier, et sur les 80-100 logements disponibles dans cette résidence, finalement aucun n'est accessible au PMR. Dans les résidences universitaires, pour continuer sur ce type-là, l'accès PMR, c'est le cas pour... Enfin, spécifiquement, c'est précisé, c'est un logement PMR, donc vraiment 100% adapté pour. C'est le cas, finalement, de 3-4 logements sur une résidence de 100 ou plus.
Mais ça peut être... Le problème serait quand, par exemple, le logement inadapté est celui qui se trouve le plus près du campus de la personne. Là, on revient encore à cette problématique de se loger loin et finalement de devoir prendre le bus. Et donc, quand on est en situation de handicap, ça peut encore plus créer d'autres problèmes.
Ah oui, tout est connecté finalement, que ce soit le logement, le transport et même l'école dans laquelle on étudie, qui sont parfois pas 100% accessibles. Je pense à la fac de sciences par exemple, depuis que j'y ai étudié, c'est-à-dire depuis 2018, quand bien même il y a un accès rampe pour les personnes en fauteuil roulant ou autre mobilité réduite, le reste du chemin finalement, il est... Le sol est cassé parce que la dalle est complètement explosée par les arbres environnants. Donc, je veux dire, oui, c'est la nature, etc. Mais derrière, il y a un manque d'investissement dans la rénovation urbaine, dans la rénovation des bâtiments et de l'ensemble des écoles qui ne sont plus adaptées. Le transport, c'est pareil. Irigo, toutes les lignes ne sont pas, il me semble, accessibles, ou ça dépend justement des types de bus qui ne peuvent pas recevoir des personnes PMR. Et finalement, dans tous les aspects de la construction, c'est surtout ça, finalement.
On en parlait hier, justement, hein, des difficultés, et c'est vrai que tout est très loin d'être accessible. Pour conclure, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la conclusion de l'enquête de 2023, j'y reviens encore, de l'Union étudiante sur le logement, qui dit, à propos de la précarité étudiante sur cette question, hein, le danger est qu'on est de s'y habituer. Est-ce que la société s'est trop habituée à cette problématique du mal logement, en particulier vis-à-vis des étudiants?
C'est ça, c'est que, en plus, on va dire, des attaques que les personnes déjà discriminées, qui ne sont pas sans la même totalité, que ce soit vis-à-vis de leur identité de genre ou sexuelle, leur handicap, leur origine sociale, géographique ou financière, aussi, une des grandes parts, c'est l'indifférence. C'est comme je le disais, c'est pas, parfois la parole, elle est muselée, elle est contrée, elle est faite contre via les attaques ou les votes, mais c'est aussi l'indifférence générale. Où une personne qui va sûrement connaître une personne qui est dans le besoin, n'ose pas déjà en parler. En parler, c'est une des premières grandes étapes, et il n'y a pas à avoir honte, puisque ce n'est pas de notre faute si on est dans un pays extra-européen, si on est dans une famille pauvre ou pas, et que suite à ces inégalités-là, cette injustice-là qui n'est pas naturelle, justement, elle est construite par la société telle que je la vois actuelle. Eh bien, cette indifférence-là, elle est partout. On ne pense pas à la question, on ne voit pas la question, parce que très souvent, justement, on ne voit pas ces personnes-là et on ne les considère pas, justement, comme ayant besoin, alors que ça se trouve, si, il y a un besoin, et ça a besoin d'être remédié.
Et on imagine que cette enquête, elle est aussi là pour redonner une piqûre de rappel sur ce problème.
Ah oui, c'est qu'on fait un rapport, les rapports, tout le monde ne les lit pas,
mais en tout cas, ça permet au moins de parler des sujets, même si tout le monde ne les lit pas en détail.
Ah oui, il faut en parler, si jamais, on va pas, nous en tant que syndicat, on est là pour défendre le droit, on va pas incuber justement, par exemple, un groupe de parole, si jamais, par exemple, entre personnes racisées qui subissent le racisme à l'université ou autre part, ou des personnes pauvres pauvres ou en situation de précarité qui subissent tout ça, mais on va pas aller les gens pour leur dire vous êtes ceci, vous avez besoin d'aide. On va se mettre à la place, mais on va pas les dénoncer comme tel, et on est là pour les accompagner. C'est vraiment selon la demande, mais cette demande là il faut pouvoir la réveiller auprès de tout le monde, parce qu'on connaît, ça se trouve, quelqu'un dans son entourage qui subit des discriminations, qui n'ose pas en parler, qui n'ose pas le dire, et qui subit encore et encore, en plus de l'indifférence du coup des autres personnes autour.
D'où l'intérêt donc d'aller venir répondre à cette enquête. Merci beaucoup à Nathan Flacher d'être venu à notre micro. Je rappelle, tu es trésorier de la section angevine de l'Union étudiante, dont la grande enquête donc sur le logement et la précarité étudiante est toujours en recherche de contributeurs et de contributrices. Bonne soirée.
Merci à vous, à toute l'équipe de Radio Campus, d'avoir invité.
Le pédalo termine sa traversée sur les ondes de campus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Richard, la technique aujourd'hui. La programmation continue sur le 103FM, alors restez bien avec nous. Et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
À retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.